Emory aperçoit Magdalene qui se dirige vers elle à grands pas, un de ses carnets de croquis sous le bras. Elle se déplace avec raideur, le visage rongé par l'inquiétude. Emory n'a pas besoin de lui demander ce qui la tracasse. La peur qu'il n'arrive malheur à son fils frise la paranoïa. Magdalene voit des serpents venimeux dans chaque parcelle d'herbe et des courants mortels dans chaque étendue d'eau calme. Pour elle, chaque écharde provoquera à coup sûr une septicémie et chaque maladie sera fatale. Aux yeux de Magdalene, cette île est un monstre aux mains griffues qui menace à tout moment de lui prendre son enfant. Emory abandonne sa pose pour la serrer dans ses bras et fait de son mieux pour la réconforter. « Ne t'inquiète pas, Mags. Sherco ne risque rien. »«
Il suffit d'une houle pour que... »
répond Magdalene d'une voix étouffée, le visage enfoui dans l'épaule de son ami. Ils sont à l'ancre. Niema emmenait des enfants au bout du monde alors que nous n'étions même pas nés. Il ne leur est jamais rien arrivé.
Ça ne veut pas dire que ça ne pourrait pas changer aujourd'hui.
Les yeux d'Emory balaient le ciel bleu. Le soleil est descendu derrière le volcan qui s'élève au-delà du village et la lune se dessine déjà à l'horizon. Dans une heure, tout sera recouvert d'ombre. « Ils vont bientôt rentrer, » dit-elle avec bienveillance. « Viens, on va aider à dresser les tables pour les funérailles. Ça va nous changer les idées. » Elle glisse un regard coupable vers Mathis en songeant qu'elle devrait passer ses dernières heures avec son grand-père. Mais le vieil homme la chasse d'un geste sans rien dire. 40 minutes plus tard, les 6 enfants franchissent le portail à toutes jambes pour la plus grande joie des villageois. Magdalene attire son fils dans ses bras, le serrant si fort qu'il se tortille en gloussant pour tenter de se libérer, tandis que ses camarades sont embrassés, étreints et ballottés d'un adulte à l'autre, jusqu'à ce qu'ils atteignent enfin leurs parents, ébouriffés et riant aux éclats. Des murmures chaleureux parcourent la foule, qui se sépare pour laisser passer Niema. Le village compte 3 anciens, et bien que tous soient vénérés, seul Niema est aimé. Les habitants lui caressent les bras quand elle passe devant eux, la couvant de regards emplis d'adoration. Niema prend le temps de sourire à chacun d'entre eux, de serrer leurs mains tendues. Contrairement aux 2 autres anciens, Héphaïstus et Théa, qui préfèrent garder leur distance, Niema mange tous les soirs avec les villageois. Elle danse au rythme de la musique que joue l'orchestre et chante à tue-tête pendant les refrains. Niema pose une main réconfortante sur l'épaule de Magdalene, puis lui soulève le menton du bout du doigt. Elle dépasse d'une tête la plupart des villageois, obligeant la jeune femme à se tordre le cou pour la regarder. « Je sais de quoi tu as peur, mais je ne mettrai jamais ces enfants en danger, » dit-elle d'une voix basse et râpeuse. « Nous sommes si peu nombreux. Nos vies sont trop précieuses pour les mettre en péril. » Les yeux de Magdalene s'embuent de larmes. Contrairement à Emory, elle n'a pas perçu la nuance dans la voix de Niema, le très léger soupçon de doute, si bien qu'elle se sent à la fois impressionnée et reconnaissante. Niema prononce quelques mots de réconfort supplémentaires pour faire bonne mesure, puis se fraye un passage hors de la foule en faisant signe à Emory de l'accompagner. Elle glisse gracieusement son bras au creux de celui de la jeune femme, tandis qu'elle se dirige vers la caserne.
« Ça devrait la calmer pendant quelques jours, »
dit-elle dès qu'elles sont hors de portée de voix.
« Viens me chercher quand elle se met dans tous ses états. J'ai eu peur qu'elle ne décide de rejoindre le bateau à la nage. »
« J'ai passé 1 heure à essayer de l'apaiser, » soupire Emory, en jetant un coup d'œil à Magdalene, qui affiche toujours une expression béate. « Comment avez-vous fait ?»«
Je suis vieille, c'est tout, »
répond joyeusement Niema.
« Pour les jeunes, les rides sont synonymes de sagesse. »
Elle tapote la main d'Emory et baisse la voix d'un air conspirateur.
« Viens, j'ai un autre livre pour toi. »
La jeune femme sourit, le cœur battant d'excitation. Bras dessus, bras dessous, Elle marche en silence dans l'air humide qui s'emplit de lucioles à mesure que tombe le crépuscule. C'est le moment de la journée qu'Emory préfère. Quand le ciel se pare de nuances roses et violettes et que les murs de pierre rougissent. Quand la chaleur féroce s'est estompée pour laisser place à une tiédeur agréable et que chaque espace vide résonne de la joie des habitants, tous de retour à la caserne.
Alors dis-moi, comment ça se passe la menuiserie ?
Demande Nima. Lorsque les villageois quittent l'école à 15 ans, ils sont libres de choisir n'importe quel métier qui soit utile à la communauté, mais Emory les enchaîne depuis une dizaine d'années, chaque essai se révélant aussi peu concluant que le précédent. « J'ai abandonné », admet-elle.
« Ah ? Pourquoi ?»«
Johannes m'a supplié d'y renoncer », répond-elle, penaude. « Il se trouve que je suis nulle pour scier le bois, raboter les poutres ou poser des joints. » Et il ne pensait pas que ça valait la peine de perdre un doigt pour un placard bancal.
Nima rit. Et la cuisine ? Que s'est-il passé ?
Katia m'a dit qu'émincer un oignon devrait être la base de mes compétences, pas l'apogée, dit Emory d'un air abattu. Avant ça, Daniel m'a expliqué que la façon dont je tenais ma guitare n'avait pas d'importance, vu les sons que j'en faisais sortir. Mags m'a prêté son matériel de peinture pour une demi-journée et a été prise d'un fou rire quand elle a vu le résultat. Je ne suis douée pour rien, apparemment.
Mais tu es très observatrice, remarque gentiment Nima.
Peut-être, mais ça ne sert à rien, puisqu'Abby voit tout ce qu'on fait, répond Emory, toujours aussi dépité. J'aimerais me rendre utile, mais je ne sais pas comment.
À vrai dire, je me demandais si tu ne voudrais pas venir travailler à l'école avec moi. Je vais avoir besoin de quelqu'un pour prendre la relève, et je pense que tu serais la personne parfaite pour ce poste.
Pendant une seconde, la suggestion lui paraît si farfelue qu'Emory ne dit rien, se contentant de la regarder en fronçant les sourcils. D'aussi loin que quiconque se souvienne, le village n'a jamais connu d'autre enseignant que Nima.
Vous comptez arrêter ?
Demande-t-elle finalement, surprise.
Pourquoi ?
Je me fais vieille,
répond Nima en grimpant les marches grinçantes qui conduisent à son dortoir.
L'enseignement, c'est merveilleux pour l'âme, mais c'est un supplice pour mon pauvre dos. J'ai vécu une longue vie, Emory, mais mes souvenirs les plus heureux se sont déroulés dans une salle de classe. Voir l'exaltation sur le visage d'un enfant lorsqu'il finit par comprendre un concept difficile, c'est un sentiment incroyable.
Elle s'arrête sur une marche et jette un coup d'œil par-dessus son épaule.
Je pense vraiment que tu serais doué pour ça. Tu as les qualités nécessaires.
Emory a un don pour détecter les mensonges, et le changement de ton de Nima rend celui qu'elle vient de prononcer particulièrement flagrant. Ses yeux se plissent d'un air méfiant. « À quelle qualité pensez-vous, au juste ?» L'ancienne répond sans hésiter, d'une voix rapide et mécanique, comme si elle s'était préparée à cette question.
« Tu es intelligente et curieuse, et tu sais t'y prendre avec les autres. »«
Pour les agacer, vous voulez dire ?» raille Emory. « Vous avez parlé à mon père ?» Cette fois, Nima marque un temps d'arrêt avant de répondre. Et son hésitation transparaît dans son ton.
Il est possible qu'il ait mentionné que tu cherchais de nouveau un travail. Mais je ne t'aurais pas fait cette offre si...
Dis à papa que j'écris une pièce de théâtre. Nima lui lance un regard en coin.
Tu l'écris depuis un an.
Je ne veux pas la bâcler.
Tu en es loin, j'ai l'impression.
Murmure l'enseignante en écartant le vieux drap qui sert de porte à son dortoir. Ce drap est l'une des petites excentricités de Nima. Les autres habitants du village n'ont jamais éprouvé le besoin de protéger leur vie privée, l'intimité étant un concept qui a remarquablement peu de valeur lorsque vous êtes né avec une voix dans votre tête qui entend vos moindres pensées. Au fil des ans, ils ont fait de leur mieux pour rénover les dortoirs, mais il y a des limites à ce que l'on peut accomplir avec un bâtiment aussi ancien.